vais peut-être lancer les questions en vous demandant de peut-être de préciser deux points. Le premier, c'est au fond ce tableau que vous nous dressez d'un temps où le travail occupe de moins en moins de place. Vous nous l'avez dit, donc c'est des heures sur tout le long de la vie. Et en même temps, ça masque un séquençage des vies avec une période de plus en plus longue au début de non-travail et puis une période de plus en plus longue aussi à la fin de non-travail. Encore que bon, c'est quand même la tendance des 50 dernières années. Mais sur le temps de travail, c'est-à-dire ce temps du milieu, pour les personnes d'âge actif, au fond, en vous écoutant, je me demandais, est-ce que cette moyenne ne dessine pas une forme d'idéal du travail stable dont la place va en se réduisant et qui laisse de plus en plus de place aux loisirs? Est-ce qu'au fond, cette image-là, pour cette durée du temps d'âge actif, c'est pas en réalité une image qui tend à se rétrécir au profit d'un travail qui occupe de plus en plus de place, même quand il est absent. C'est-à-dire que quand il est là, il occupe de plus en plus de place parce que pour s'y rendre, c'est plus long, parce que soit quand on est en haut de la hiérarchie professionnelle, parce que le travail est extrêmement chronophage et s'insinue dans toutes les dimensions de la vie, soit quand on est tout en bas, parce que la précarité, les horaires fractionnés, etc., font que, enfin, c'est l'histoire c'est l'histoire de Ouistreham, quoi. Enfin voilà, pour additionner 20 heures, il faut y passer 60, et que donc finalement cette vision un peu irénique de ce travail qui serait petit à petit poussé en périphérie de nos vies au profit d'un espace de jouissance augmentée. En tous les cas, pour ce qui concerne les âges actifs, au fond, est-ce que c'est pas quelque chose qui a tendance à plutôt avoir sa place restreinte qu'augmentée? Ça, c'est ma première question, c'est la plus importante. Et puis peut-être la deuxième, c'est quelque chose que j'ai pas bien compris là pour le coup. C'est quand vous nous avez parlé, donc j'ai beaucoup aimé l'idée du numérique comme une ville sans territoire. Ça me fait penser d'ailleurs à un truc qu'on disait sur la plage. La plage, c'est la ville sans les murs, ou je sais pas quoi.
Phrase de Pessoa.
Oui, c'est ça. Et là, c'est voilà, le numérique, c'est la ville sans territoire. Alors si c'est ça le numérique, c'est le lien après que vous faites avec le privilège métropolitain et l'attractivité métropolitaine. Là, j'ai trouvé ça un peu contre-intuitif. C'est-à-dire que vous entrez avec une idée que, finalement, le numérique crée une sorte d'affranchissement du territoire. Et comment vous rebouclez avec l'attractivité métropolitaine à partir de là? Voilà, c'est mes deux questions.
Ou facile. Je ne dis pas que le travail devient périphérique. Je le regarde en temps. En n'oubliant pas que l'essentiel des gens travaillent en CDI ou en statut de la fonction publique. Donc il faut toujours faire attention. Les gens qui sont en CDD ou en emploi intermédiaire, notamment les jeunes et les femmes ouvrières, c'est toujours les mêmes, malheureusement. C'est-à-dire qu'ils sont des emplois courts qui multiplient les emplois courts. Au fond, on a un monde du travail dans lequel le cœur du monde du travail se stabilise, parce que ceux qui ont un emploi ou qui sont indépendants, ou qui soient fonctionnaires, ou qui soient en CDI, tendent à rester dans cette part protégée. C'est de très très loin la grande partie du monde du travail, c'est pour ça que la plupart d'entre nous ont des emplois stables. Mais qu'effectivement, il y a deux groupes en grande difficulté, c'est les femmes ouvrières, qui étaient déjà les plus fragiles, et les jeunes entrants, sans parler des immigrés. Bon. C'est-à-dire ceux qui veulent entrer. Bon. Et les jeunes entrants, c'est un groupe tout à fait particulier, parce que moi je pense qu'on est adulte vers 27 ans, 28 ans. Je pense que la société moderne est une société hyper complexe, dont l'apprentissage prend 10 ans de plus, à peu près, que les sociétés antérieures. Et que donc, être adulte aujourd'hui, vous savez, on disait être adulte, la définition traditionnelle, c'est montrer qu'on peut gagner fait sa vie et montrer qu'on peut se reproduire. Et donc je suis adulte, vraiment, quand j'ai un salaire et un travail. Aujourd'hui, c'est 28 ans. 92% des jeunes à 28 ans ont à peu près les deux. Le CDI et le travail, sur plus, ils ont fait un peu des études. Bon. Donc ça veut dire qu'on est adulte beaucoup plus tard qu'avant. Et je pense que c'est parce que notre pensée de la formation de la nouvelle génération n'a pas encore complètement intégré ça. C'est-à-dire, au fond, être adulte, c'est avoir fait des études, avoir appris à travailler, avoir appris à aimer et avoir appris à voyager. Parce que la mondialisation, c'est ses quatre fondamentaux. Le voyage, l'amour, le travail, etc. C'est pour ça, par exemple, que moi, je suis... D'ailleurs, on le voit très bien chez les étudiants. L'étudiant qui travaille un jour par semaine est embauché plus vite que l'étudiant qui ne travaille jamais. Mais l'étudiant qui travaille quatre jours par semaine, il rate ses études, donc il est embauché moins vite. Ça veut dire que la généralisation... Moi, j'avais, par exemple, proposé que pour qu'un étudiant ait une bourse, il fallait qu'il travaille un jour par semaine. C'est le modèle quand je m'étais battu pour l'ouverture des commerces de bricolage le dimanche, parce que j'aimais beaucoup le modèle de ces sociétés qui effectivement font travailler, garantissent 4 ans de travail, de revenus, en échange d'un mois par an plus un jour et demi par semaine. Et en échange, et la question c'était que ces gens-là aient des droits des CTU par exemple, pour qu'ils soient logés en CTU, que donc le modèle soit économique. C'est-à-dire qu'on n'oppose pas les études et le travail, ce sont des apprentissages parallèles. Et on sait tous qu'un étudiant de 28 ans qui vous a fait deux thèses d'état sur effectivement l'architecture antique, sa capacité à travailler est quasiment nulle. Donc on est... Non mais excusez-moi, bon, donc on est... Vous voyez, l'autre jour j'ai un étudiant, il vient me voir, il dit je vais faire une thèse pour comparer Marx, la lecture de Marx, de... Je dis mais attends, tu peux travailler ou tu peux pas travailler si tu peux... Non, ça veut dire qu'il y a quatre apprentissages fondamentaux et que les faire bien, ça va plus longtemps. Mais ça veut dire aussi que, par exemple, les jeunes qui abandonnent leurs études et décrochés scolaires, peut-être qu'il vaut mieux les aider à faire le tour du monde et qu'après, ils auront envie de se reformer. Les apprentissages ne sont pas dans le même ordre. Et ça, c'est difficile à faire entendre. On vous dit, non, mais attends, on va les mettre dans une école de deuxième chance, qui sont d'ailleurs des trucs qui marchent vachement bien. Mais bon, peut-être que des fois, un grand voyage, c'est bien. Bon, c'est-à-dire que le problème, c'est de les sortir d'un environnement. Parce qu'au fond, aujourd'hui, l'exclusion, c'est la mono-appartenance. Dans cette société que je décris, être intégré dans cette société, c'est être multi-appartenant. C'est pour affirmer son homosexualité, son boulot, son origine, et puis changer, etc. Le type qui est mono-appartenant, qui n'a jamais quitté son quartier, qui n'a jamais quitté ses parents, ou qui n'a jamais quitté sa croyance religieuse, qui n'a qu'une appartenance, qu'une filiation, il est en fait exclu de la société. Et c'est cette inversion qui est complètement fondamentale. C'est-à-dire, je dirais, l'hyperstable est exclu. Je pousse un peu mon modèle. Hein, j'exagère un peu, mais pas tellement. Et alors, donc, ça, c'est absolument fondamental. Donc, ça veut dire que arriver à l'âge adulte, c'est arriver vers 27-28 ans, et on va travailler jusque vers 27-67-68 ans. On est sur ce modèle. En n'oubliant pas que chaque génération gagne 10 ans d'espérance de vie. Et que donc, un jeune d'aujourd'hui, son espérance de vie, elle sera de 10 ans supérieure. Donc le fait qu'il travaille plus tard n'est pas scandaleux, parce qu'il vivra plus longtemps. Les gens, alors quand on dit ça, on dit « t'as vu dans quel état ils sont ?» Alors j'ai pas fait le coup, « t'as vu dans quel état ils sont ?» Il dit « mais t'as pas vu ma grand-mère à la campagne, elle revenait du champ, parce qu'à 60 ans, elle avait l'air plus vieille que la tienne à 85 ans. » Donc il y a cette espèce de discours permanent. Donc je crois qu'il faut, c'est compliqué de se projeter, parce que, mais je pense qu'il faut essayer de réfléchir là-dessus. Et notamment, c'est vachement important pour l'intégration des jeunes, parce que, on sait très bien que les jeunes qui ne s'intègrent pas sont des jeunes qui n'ont pas fait d'études pour schématiser. Qui n'ont pas fait d'études et qui ne sont pas pris dans le monde de l'artisanat ou de l'agriculture, où on peut trouver... Vous voyez, moi, dans mon village, par exemple, on avait fait une étude une fois, on s'est rendu compte que les gosses du pays, en gros, ils avaient fini par trouver du boulot. Parce qu'il y en a un qui était arrivé à l'épicerie, l'autre qui était au bar, etc. Les gosses qui étaient vraiment dans la merde, c'était les gens qui étaient arrivés et qui n'avaient aucun réseau. Parce qu'il y avait un boulot, le boulot, le parent l'avait plus, et le gamin, il n'avait aucune forme de solidarité. Donc, au même niveau, ils avaient l'air pareil dans la même bande de copains, mais non, il y en a un qui avait les réseaux de solidarité. Y compris parce qu'il y a toujours quelqu'un qui lui trouve un terrain pour construire sa maison, un petit bout qui reste, un délaissé, comme on dit dans les villages. Bon, et donc, du coup, c'est ce qu'on disait avec Madame la sénatrice tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on sait très bien, moi qui ai été élu local, qu'effectivement, un gosse du village, on va se démerder pour qu'il ait une piole, quoi. On le dit pas parce qu'on n'a pas le droit, mais c'est pas qu'on le fait passer avant la rampe de service, c'est que simplement, effectivement, c'est un gosse du village, donc il est là. Et à la limite, si c'est un gosse issu de l'immigration, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on le connaît et tout. Il faut pas faire des séparations caricaturales. Bon. Et donc, il y a des formes de solidarité de groupe, mais qui marchent que dans les petits groupes. Ça marche pas dans les grandes périphériques. Bon. Donc voilà, donc je pense qu'il y a toute cette réflexion. Donc moi, je minore pas l'importance du travail. Je pense que le travail est un lieu d'épanouissement, un lieu de rencontre, que le travail doit être beaucoup plus discontinu, que le fait de pouvoir quitter un emploi est un enjeu absolument majeur. Moi, je suis très favorable aux réformes de Macron sur tout ça, donc j'ai donné mon avis d'ailleurs avant, donc je n'ai pas changé d'avis. Je pense que le travail doit devenir... Il faut comprendre ces sociétés de discontinuité. Et il faut la favoriser, disons, quand les acteurs le désirent. On ne va pas dire aux gens, tu dois divorcer tous les 10 ans, ça serait totalement débile. Mais de fait, dans la vraie vie, c'est beaucoup comme ça. Donc c'est ça la question. Donc je minore pas le travail, mais je pense qu'il faut le regarder autrement. Et il faut regarder autrement l'entrée des jeunes dans la société aussi, ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que ça correspond à ta question ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Pardon, vas-y.
Pardon. Est-ce que ça répond à ma question ?
Oui.
Pas tout à fait, mais... Mais c'est intéressant quand même.
C'est gentil.
Et alors ma deuxième...
Non, mais sur le fait qu'on ait ce sentiment de ne pas avoir de temps, qu'on travaille beaucoup plus, etc. qu'avant, je crois que c'est parce qu'on ne se rend pas compte. Je vous conseille de lire « La vie d'un simple » de Guillemin, qui est un livre que j'aime beaucoup, qui est une petite édition de poche, qui a été écrit par un paysan à la fin de sa vie. Il raconte sa vie. Et il raconte une chose fascinante. Il raconte que quand il a eu 20 ans, son père lui a dit « Au printemps, tu auras un dimanche après-midi pour trouver une épouse. » Et il a dû aller au bal trouver une épouse. On lui a donné une après-midi de temps libre pour trouver une épouse. Nous, on dit « Non, mais ils sont malades, c'est vrai. » Mais je veux dire, on ne se rend pas compte à quel point le travail était continu. C'est-à-dire que c'était la vie, on se levait pour travailler. Et quand on avait fini de travailler, on se couchait, en fait. Bon. Et c'est la France des années avant 14. C'est pas... le Moyen-Âge. Donc on ne se rend pas compte de ça. Et je pense que aujourd'hui d'ailleurs, quelqu'un qui ne voyagerait pas, quelqu'un qui ne regarderait pas la télé, quelqu'un, il deviendrait improductif très vite. Parce que les choses changent tellement vite, les techniques, les outils, les liens sociaux, les modes, que c'est dans le hors-travail qu'on revalide le travail. C'est ça qui est nouveau. Alors c'est vrai dans toutes les sociétés, c'est très schumpeterien de dire ça. Encore une fois, très macronien de ce point de vue-là. Mais la vraie question, c'est qu'effectivement, dans nos sociétés, plus que jamais, le hors-travail est le lieu de revalorisation de la force de travail. Non pas simplement parce qu'on disait tu dors, tu te reposes, t'es en forme. Non, mais y compris mentalement, etc. Et donc dans une société comme ça, où les techniques sont hyper complexes, où la densité à l'intérieur de la sphère de travail est sans limite, parce que quand les gens travaillaient 200 000 heures, à l'intérieur, il y avait éventuellement la sieste, il y avait éventuellement le carnaval, il y avait éventuellement... À l'intérieur de ce qu'on appelle le travail, il y avait des formes de liens sociaux. Alors que nous, le travail est hyper densité. Il y a pas. Alors dans les trucs modernes, maintenant, on essaye de faire des sorties au ski ou d'aller boire un coup ensemble, mais la densité dans le temps de travail est considérable. Donc le travail est très dense mais très court. Donc c'est tous les problèmes de burn-out, tout ça. Donc c'est bien leur travail qui restructure à la fois l'innovation et effectivement la capacité de travailler. Quand on regarde par exemple Michelin, qui a construit ses locaux de recherche à Clermont-Ferrand. C'était passionnant parce qu'ils ont recentralisé la recherche. Et ils se sont rendus compte que les deux tiers des innovations avaient lieu quand le salarié n'était pas dans ce qu'il appelle un moment de travail. Et ce n'est pas quand il est devant son ordinateur qu'il a l'idée. C'est quand il boit un café, c'est quand il a les pieds sur le piano. C'est-à-dire c'est à des moments où il est décalé. Ce n'est pas quand il est en train de faire du ski non plus, mais c'est quand il... Et donc ils ont multiplié les locaux, les points de rencontre, ce qu'on trouve dans les nouvelles sociétés high-tech, etc. C'est-à-dire de comprendre que l'hyper-créativité... Elle est liée tout ça à ces ruptures. Quand vous regardez les startups aux États-Unis, 40% des startups sont créées par des immigrés. Ça veut dire qu'effectivement, c'est celui qui est en situation de dérangement. D'abord, il doit se battre parce qu'il n'a pas de protection, mais aussi parce qu'il est métis. Et qu'il est métis de culture. Il a deux cultures, celle qu'il amène et celle qu'il découvre. Donc, il est écrasé. Il arrive souvent en réalité. Mais ce qu'on voit, c'est ceux qui s'en sortent. Et quand vous regardez le taux de création des startups américaines, c'est la même chose. 40%, c'est quand même absolument considérable. Et donc, ça veut dire que dans ces sociétés-là, c'est bien quand on sort de l'ornière qu'on devient créatif. Et c'est bien pour ça qu'on a un tel problème avec la fonction publique. Parce que là, on est sur... L'idée d'en prendre pour 40 ans, mais c'est impossible, quoi. Je veux dire, excusez-moi, mais dans une société aussi rapide que la nôtre, et c'est pour ça que le mariage aujourd'hui, quasiment, on prévoit déjà le divorce, quoi. On sait très bien que c'est une probabilité forte. Et si on n'espère pas que ça va se passer, je veux pas dire ça, mais... Le type qui en prend pour 40 ans, c'est pas possible. Comment vous voulez passer un concours d'enseignement et 40 ans après être motivé tous les matins pour aller enseigner? Vous êtes déjà allé dans des cours de lycée? C'est terrible parce que ces gens sont intelligents, ils sont dynamiques. Mais putain, il faudrait leur dire, mec, au bout de 10 ans, tu fais autre chose. on trouve un autre boulot. Je ne dis pas qu'il faut le fusiller, mais on ne peut pas être créatif dans une société qui change aussi vite, qui est aussi rapide et tout. Ben, vous vous rendez compte que dans la plupart des classes du lycée, il n'y a pas encore d'ordinateur. C'est quand même tout à fait stupéfiant. Quand je vais faire des conférences comme ça, dans les grandes entreprises, les mecs, ils ont tous des ordinateurs sur les genoux. Quand je vais à une réunion avec des politiques, ils n'en ont pas. Ils ont des assistants derrière qui prennent des notes. Attendez, excusez-moi, mais j'étais conseiller municipal de Marseille, il n'y avait pas d'ordinateur, enfin, je n'utilisais pas. Donc, je veux dire, la vitesse à laquelle les différentes parties de la société sont rentrées dans ce nouveau modèle, et la façon dont on innove dans une société où les ruptures technologiques sont aussi rapides et aussi fulgurantes, ça veut dire en matière de santé, je veux dire à quel point... Donc, je veux dire que là, on ne peut plus innover comme on ne peut innover hier. Et en plus, il y a une deuxième chose qui est fondamentale, c'est que nous, on croit qu'il faut passer par l'agriculture, l'industrie lourde, l'éducation, etc., et puis vous avez d'un côté Niel qui prend des mecs qui n'ont pas fait d'études et qui vont les rendre hyper performants, et vous avez les pays du tiers-monde, comme l'Asie, notamment en Asie, qui ont des capacités d'innovation fulgurantes sans passer par ces étapes. C'est-à-dire que les systèmes de création de l'innovation que nous avons connus, nous pensions qu'on allait les mondialiser, y compris qu'on allait passer par le stade démocratique pour accélérer l'innovation. Or, c'est faux. On ne passe plus par le stade démocratique. Et les Chinois sont en train de fabriquer beaucoup plus d'ingénieurs écologiques que tous les pays démocratiques. Donc on est là dans des bouleversements fulgurants. Et le discours en permanence de dire « tu mets le travail entre périphérie », je ne mets pas le travail en périphérie, je mets le travail au cœur d'une société de la mutation fulgurante. Et donc je dis qu'effectivement, c'est le hors-travail qui est le moment où j'apprends comment en permanence je dois courir pour transformer la production que j'ai. Donc tu vois, c'est pas du tout une vision. Moi, je suis pas sur les discours même de Dominique Méda, même si je l'aime beaucoup, un peu comme si le travail était devenu une qualité. Alors après, à l'intérieur du travail, c'est vrai que ce type de modèle entraîne de plus en plus des emplois, comme Oustream le montre très bien, qui sont effectivement des emplois d'entretien, des emplois bas de gamme, des emplois de ménage et tout. Après, tu as une rupture à l'intérieur du monde du travail, mais c'est encore un autre sujet, entre les différentes populations. Et donc ça, c'est évidemment un enjeu tout à fait majeur, parce qu'effectivement, tu as dans les mêmes catégories, les 77% des gens ont dit c'est des emplois de service. Enfin, ça n'a rien à voir entre vous que toutes des emplois de service, et nos femmes de ménage et nos jardiniers. Donc bon, on est là dans des encore, c'est encore pas les pires. Donc, bien sûr qu'il y a des ruptures à l'intérieur du monde du travail. Mais on a des discours de paupérisation, en grande partie parce qu'on ne comprend pas les bouleversements qu'on vit. Donc on ne mesure que les marges. Par exemple, si tu prends la répartition des revenus, tout le monde voit très bien qu'il y a 0,1% des revenus qui ont complètement pété un câble, qui sont absolument en dehors de tout contrôle, mais le cœur de la société s'est beaucoup rapproché par rapport à il y a 50 ans. Et après, tu as dans les pauvres une augmentation de la pauvreté des pauvres, c'est-à-dire que tu as des pauvres ultra pauvres. Ça ne se voit pas dans les statistiques parce qu'on dit qu'ils sont en dessous du seuil de pauvreté. Oui, mais on peut être en dessous du seuil de pauvreté, tout près du seuil ou tout en dessous du seuil. Donc c'est évidemment pas la même chose. Mais ce n'est pas une société qui s'appauvrit, y compris parce que c'est une société biactive. Et qu'en fait, le temps de travail des couples depuis la libération est quasiment constant. La vérité, c'est que moins l'homme travaille, plus la femme travaille. Quand on a fait les 35 heures, c'était rigolo, moi je fais un sondage, qu'est-ce que vous allez faire de vos heures ? Alors, les mecs, ah ben moi je pense m'acheter un vélo, tout ça et tout. Et les nanas, ben moi je vais prendre le gosse à la crèche, attends, je vais en profiter pour passer à l'hyper-U, etc. C'est-à-dire que c'était en fait une réorganisation. Alors c'est vrai que les dames ont gagné en temps de gommage, excusez-moi, mais ça a été une intrigue importante après les 35 heures, et elles ont pu regarder un peu plus la télévision. Mais est-ce que c'était l'objectif des gens qui ont fait les 35 heures? On pourra en discuter. Mais les hommes le pensaient tout le temps pour eux. Et parce qu'il est clair que l'homme a profité de ce modèle au niveau du temps d'une façon extraordinaire. Alors bien sûr, on va dire que Moulinex a libéré la femme. Enfin d'abord, bon, c'est quand même un peu discutable, mais en plus, comme elles ont été de plus en plus salariées, ça leur a donné un statut économique qui font qu'elles demandent le divorce quand elles sont mariées à 60%, parce qu'elles ont un revenu. Donc l'autonomie économique des femmes, c'est quand même aussi la liberté sentimentale. Donc c'est pas marginal, je ne l'ignore pas du tout. Mais il faut avoir... tout ça, mais en gros, le temps de travail du couple est à peu près constant. Le premier pas qui est devant nous bientôt, c'est la semaine de 4 jours. Et ce qui est en train de se passer dans des tas de pays, c'est intéressant ce qui se passe en Allemagne, avec le débat sur les 28 heures, mais c'est intéressant aussi ce qui se passe aux États-Unis sur le week-end de 3 jours, notamment dans les écoles, où il y a de plus en plus d'écoles où le vendredi, il n'y a pas de cours. Mais du coup, toute la formation des enseignants se passe le vendredi. Donc il n'y a plus jamais de prof absent, parce que nous, c'est souvent pour ça qu'ils sont absents, c'est parce qu'ils sont en formation. Toutes les cours de rattrapage ont lieu le vendredi, et toute la convocation des parents le vendredi. C'est-à-dire il y a un jour pour tout ce qui, j'allais dire, empêche l'éducation de fonctionner les autres jours. Et puis le jour où votre gamin, et vous n'êtes pas engueulé, vous n'êtes pas convoqué et tout, ben là, vous partez en promenade. Mais donc ce modèle-là, il y a d'autres modèles de temps qui sont en train de se mettre en place sur tous ces sujets et qui sont évidemment extrêmement intéressants. Voilà. Alors la deuxième chose sur le numérique, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, le numérique, c'est de la ville virtuelle en termes de liens, c'est-à-dire la présence permanente de l'aléatoire et de l'autre à côté de toi. Moi, mon voisin, par exemple, il restructure l'industrie lourde du Kazakhstan. J'en ai un autre un peu plus haut sur la colline, il décide les voitures pour les Japonais. Bon. On est très bien, nous, on est au soleil, là, sur une pente sud du Luberon, donc on est parfaitement installé. Mais ce que je veux dire, c'est que, donc, on peut faire ça de loin. Et donc, comme je fais moi, je dirige ma maison d'édition, j'écris mes livres, mes articles et tout, tout ça, tout dans mon village et dans ma ferme. Mais en même temps, il est clair que là où le réel et le virtuel se superposent, le virtuel accélère le réel. Et là où le réel et le virtuel sont géographiquement séparés, ça crée du lien. Moi, quand on a créé Actes Sud, quand tu Bernissin a créé Actes Sud, j'étais le premier auteur de la maison d'édition Actes Sud en 78. Le premier livre, on les a chargés dans une 4L pour les amener en librairie. Avec la grève des postes permanentes à l'époque, pour faire les services presse, c'était la guerre absolue. On se rend même plus compte de ça. Moi, les gens ne me demandent pas, dans le monde entier, quand j'achète des livres en Chine, en Inde et tout, pour ma maison d'édition, ils ne me demandent pas où je suis installé. Ça leur vient même pas à l'idée. C'est une connexion Internet, voilà. Ils sont pas, et je leur dis pas, je suis à la campagne et tout. Ils s'en foutent complètement. Non. Non, mais on se rend pas compte à quel point ça a changé en très peu de temps. Actes Sud est un cas intéressant parce que la patronne est devenue ministre, alors que cette boîte, on l'a fait démarrer en 78 avec 20 000 francs de l'époque. On avait de quoi imprimer un livre. Le Bernissin avait de quoi payer un livre d'imprimer. Bon. Je trouve qu'on a pas mal vendu, enfin quand même. Donc, c'est pour dire, c'est des périodes très très courtes, et le changement est absolument gigantesque. Donc ce sentiment, ce que je disais sur les 80 km/h, c'est pareil, c'était moi les 80 km/h, d'un point de vue rationnel, je suis pour, mais je le sens comme une exclusion supplémentaire. Parce que, il y a 30 ans, quand j'avais une réunion à Marseille, je comptais 40 minutes, maintenant je compte 1h10. Oui, parce qu'en plus, ils m'ont mis l'autoroute à 90. Alors ça, c'est un mystère absolu, parce que j'ai 40 km d'autoroute à 90. Alors ça, c'est vraiment d'une utilité phénoménale. Bon, il paraît que c'est bon pour la nature. Ce dont je suis convaincu. Mais bon, c'est une autoroute qui est utilisée par des gens qui font des trajets domicile-travail quotidien. Quoi. Donc est-ce que c'était là qu'il fallait... Peut-être on aurait pu mettre à 90 l'autoroute qui monte au ski, par exemple. Parce que là, moi, je pense qu'il pouvait aller moins vite. Mais bon, si je disais ça, je serais pas bon. Donc c'est tout ça qui est important à comprendre. C'est le rapport entre la ville réelle et la ville virtuelle. Et non seulement c'est une densité objective, mais si tu regardes les bords du Bataclan, c'est passionnant, c'est tragique évidemment, mais c'est passionnant pourquoi ? Parce que c'est la métropole, tu as des universitaires, tu as des gens qui ont fait les coloniales, tu as des gens de com, tu as des filles qui tenaient le petit resto à côté, la belle étape, c'est des beurettes. Mais ces beurettes, elles étaient complètement mondialisées parce qu'elles avaient compris qu'au-dessus il y avait le STAB, le syndicat national des agences de voyage, et que les mecs en permanence, quand ils venaient manger, ils disaient « putain, il me reste deux places pour Marrakech, j'ai personne ». Ils disaient « hé, deux places pour Marrakech, ça m'intéresse ». Et elles avaient voyagé partout, parce qu'elles étaient métropolisées, même si elles n'avaient pas fait d'études et qu'elles tenaient un petit resto. C'est ça la ville aujourd'hui. Et d'ailleurs, la jeunesse, si vous avez des jeunes, faites-les passer en ville. Je veux dire, la grande ville fait partie des apprentissages. Et une des chances qu'on a en France, c'est que nous avons une des quatre métropoles de la mondialisation. Je veux dire, la mondialisation n'est pas un phénomène homogène. Le problème de la France, c'est qu'on est toujours, quand on voit un ministre d'aménagement des espaces et tout, il poursuit avec son chien, tout ça, on sait très bien, ça me rappellera Beaulieu, moi. Mais quand on est là, dans un processus comme ça, la question c'est, est-ce que la capitale économique, culturelle et créative de l'Europe, ça va être 11 millions d'habitants de l'Île-de-France ? C'est l'enjeu du prochain siècle. Le reste, c'est de la tchatche. Et donc, effectivement, il y a que, les travaux de Skaskasen qui sont très intéressants. Au niveau mondial, il y a quoi ? Il y a New York, il y a Los Angeles, il y a Shanghai. Et puis, il y avait Londres et Paris. Le Brexit fait reculer Londres. Londres va devenir une ville de flibustiers. Ils vont trouver une économie de la flibuste. Ils l'ont déjà trouvée pendant des siècles. Hein. On s'est beaucoup battu, on a beaucoup coulé de bâtons blés, nous en avons beaucoup coulé. Le jeu de la flibuste et de la papier. Nous, ce qu'on a, c'est la grande métropole, non pas politique. Là, 11 millions d'habitants. Berlin, c'est quoi ? Bruxelles, ils sont 1,2 million. Il faut quand même avoir une vision des tailles critiques des métropoles. Et quand, par exemple, sur l'Île-de-France, moi, je soutiens beaucoup le projet d'Euro Disney, d'Europa City, pardon, qui fait hurler tout le monde. Parce qu'effectivement, alors, ça m'a coûté mon élection, les écolos ont appelé à voter contre moi parce que je soutiens Europa City. Mais Europa City, c'est le plus grand supermarché du monde qui est en train de construction à côté de Roissy, où les mecs, ils investissent 3 milliards. Il y a 12 000 emplois, ils veulent 24 millions de clients. Il y a un cirque, il y a deux palais des congrès, il y a 2400 chambres d'hôtel. Donc, c'est-à-dire que c'est un objet C'est pour ça que j'avais confondu avec le Disney, parce que c'est la même chose, mais en commerce des idées. Parce qu'il y a 4 hubs pour les cerveaux de la planète. Et ces hubs, ce sont des grands aéroports. Vous n'allez pas faire un congrès d'architectes, je ne sais pas, moi, à Toulouse, au niveau mondial. Le mec arrive de Singapour pour arriver à Toulouse, il sait comment il fait. Donc je veux dire, vous avez des hubs, même si Toulouse a une grande chance d'avoir rendu Blagnac aux Chinois. Mais quand j'ai vu le maire de Blagnac, il pleurait parce qu'on lui avait vendu aux Chinois, je me suis dit, t'as une chance géniale. Il me dit, comment génial? Mais il y a des dizaines de millions de Chinois qui connaissent mon trou infâme. Personne ne connaissait Blagnac. Maintenant, ils connaissent. Donc, si le mec, il veut s'installer une entreprise en Europe, il dit, il y en a un. Blagnac, c'est où ce truc qu'on a acheté l'aéroport? Et donc, là, on est sur ce type de bouleversement. Et c'est ça qui est complètement passionnant. Et ce qui est énervant en France, c'est qu'on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas qu'on a la plus grande ville d'Europe et que le Brexit, c'est qu'une connerie pour le militaire, mais c'est une bonne nouvelle. On ne comprend pas que le rapport Paris-Provence n'a plus de sens, qu'on a des métropoles dans des territoires, qu'il faut lier ces liens horizontaux, et qu'on a la chance d'avoir le New York de l'Europe. À 50 ans, l'Île-de-France, ça sera pareil que New York, c'est à peu près de la même échelle. Et donc ça sera la grande ville de référence. Et c'est quand même, d'ailleurs c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, on fait tout pour piquer les services financiers, etc., avec un succès moyen, mais enfin quand même, on voit bien que c'est apparu à plein d'endroits, et qu'on va transgresser des règles, y compris financières, en disant, bon, les traders, on vous fera pas d'impôts parce que vous êtes sympas, etc. Donc, mais c'est pas l'enjeu tellement des traders, c'est de comprendre que là, c'est le cœur culturel, au fond, de l'Europe qui est en train de se construire. Bon. Et c'est ce genre de choses, à mon avis, y compris qu'il faut raconter aux gens pour leur donner un sentiment de puissance, mais qui est une puissance non nationale. On leur dit, mais attendez, l'Île-de-France, c'est le cœur culturel, économique de l'Europe. Donc ça veut dire que vos discours nationaux, c'est très important, les nations, les territoires et tout, mais l'Île-de-France, c'est pas une ville française, c'est plus une ville française, c'est plus la capitale jacobine, c'est plus tout ça, c'est le cœur économique, en tout cas, c'est l'objectif sur lequel on travaille. Après, il se peut qu'on n'y arrive pas, et on peut être mauvais, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois. Mais déjà, se fixer l'objectif, mobiliser les entreprises et les gens là-dessus, c'est un enjeu absolument majeur. Et regardez ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, c'est quand même absolument passionnant. Ce département, comment on a tous l'image, c'est un peu comme si il y a des quartiers, il y a les Tournantes et les Saintes, et la Seine-Saint-Denis, bon, c'est vrai qu'il y a un marché de drogue qui fait concurrence à celui de Marseille, ça m'ennuie beaucoup. Et d'ailleurs, dès qu'on aura autorisé le hashish, je vais me lancer dans le savon de Marseille au hashish. Parce que ça, là, les deux images associées, vous savez qu'en Californie, l'essentiel du hash se met dans le bain. Parce qu'on ne fume plus en Californie. Mais par contre, on se savonne. Et alors, les paillettes, prenez un bain au hashish, vous venez après ici en réunion, vous écoutez tout avec les oreilles encore beaucoup plus ouvertes.
En parlant peut-être fort, juste une question par rapport à la société du temps discontinu. Comment vous articulez ça avec la réflexion qui a eu lieu pendant la campagne présidentielle sur le revenu universel?
Est-ce que vous pouvez, pour l'habitude, pardon, vous présenter, s'il vous plaît?
Oui, parce qu'ici on n'est pas anonyme, hein, on est
voilà,
quand même...
Donc je redis, Éric Lajarge, CGET, je ne sais pas si ça fonctionne.
S'il n'est pas
là, ça fonctionne.
Non.
Bon.
Donc,
donnez votre nom comme ça.
Éric Lajarge, CGET, et ma question porte sur le questionnement entre ce que vous nous avez dit de manière très passionnée et passionnante. Moi, j'ai retrouvé beaucoup de choses de votre livre, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup apprécié.
Et... Continuez.
Non, mais je le dis. Non, mais ce que vous dites est vrai sur l'articulation de tous ces chiffres dont on peut imaginer qu'on aurait pu imaginer un ou deux, mais c'est la mise en synergie de tout ça qui fait que l'exercice devient passionnant, et vous entendre l'est aussi, et c'est, bon, je pense que c'est très partagé. En vous écoutant, je me suis dit, il y a aussi la question du revenu qui fait sens, la question des transferts sociaux aussi qui fait sens. Et puis, du coup, la question du revenu universel qui a été un des sujets forts et qui questionne d'ailleurs le fait qu'on va ou pas vers une société sans travail, puisque c'était aussi ça la question.
Mais il y a deux choses. D'abord, je suis absolument contre les discours de société sans travail. Parce que l'homme n'arrête pas d'inventer des nouvelles activités. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple des 40 emplois sur le corps. Au fond, les 40% des emplois qui s'occupent du corps, c'était avant les gens qui ramassaient les produits agricoles. C'est-à-dire toute la main-d'œuvre qui est pauvre, qui glanait, qui ramassait le blé, etc. Parce qu'on ramassait à la main au début du siècle précédent. Et au fond, on a mécanisé l'agriculture, on a libéré la main-d'œuvre, on l'a éduquée et on a investi sur le corps et la vie s'est allongée. C'est ça le modèle sur lequel on est. Bon. Donc, ben, si on a moins besoin de gens pour des emplois productifs, eh ben, ils font de la culture, ils peindront, ils font l'amour, ils voyageront. Je veux dire, je pense que c'est par l'intelligence, l'enrichissement, la démocratisation de l'intelligence et de la culture qu'effectivement les sociétés progressent. C'est pour ça que j'étais très contre et j'ai pris position très violemment contre cette idée de la fin du travail. Il n'y a pas fin du travail. Il y a effectivement allongement de la vie. Il y a effectivement automatisation des processus de production. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, je travaillais sur les chantiers. Je vous assure que monter les sacs de ciment sur l'école, ça ne m'a jamais fait rêver. Moi, quand je vois un Manitou, je suis chaque fois content. Et il faut avoir jamais travaillé de ses mains pour ne pas avoir de plaisir à voir un Manitou. Ou pour, quand vous allez visiter les usines de construction automobile et que vous voyez tous ces robots qui travaillent, il ne faut jamais avoir travaillé de ses mains pour trouver que c'est une connerie. Donc, je veux dire, la fin du travail pénible est un progrès considérable. Après, il y a des travaux pénibles qui se recréent. L'exemple que tu as pris sur les femmes de ménage, l'Israël, etc., la surexploitation d'une partie des gens. Mais ce n'est pas le travail, c'est les conditions de travail qui sont ingérables. Bon, il ne faut pas mélanger les questions. Bien. Donc ça c'est absolument fondamental. La deuxième chose, moi j'ai écrit depuis longtemps sur le revenu universel pour la jeunesse. Je pense effectivement que jusqu'à 25 ans, 26 ans, on devrait tous avoir un revenu. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, il y en a qui ont des bourses. Il y en a où les parents font des économies fiscales à cause d'eux, etc., etc. Je pense que dire aux jeunes de 18 à 25 ans, ou de 18 à 26 ans, tu as un revenu, bon, qui peut être augmenté par du travail, il ne faut pas donner un gros revenu, il faut donner 400 ou 500 euros, effectivement, et surtout, il faut donner un logement. Parce que la vraie question, c'est de séparer la question du logement de la question du revenu. Bon. C'est pour ça que le logement doit rester un secteur à part. Le droit au logement est un droit absolument fondamental. Et notamment pour la jeunesse. Parce que le droit au logement, c'est le droit à l'autonomie. Le droit à l'autonomie, c'est le droit à la vie sentimentale, etc. Et que l'absence de vie sentimentale dans les milieux populaires est une tragédie. Bon. Qui se gère, y compris, pourquoi les mecs ils vont en Syrie à un moment? Merde, en Syrie, vous avez des calaches, des camions, vous pouvez violer les gonzesses, etc. Il faut aussi voir l'ensemble des chaînes sur lesquelles ils travaillent. Bon. Et donc c'est clair aussi qu'il y a une misère économique, sentimentale, culturelle et citoyenne qui fait qu'il y a des gens qui n'ont pas de place dans nos sociétés. Ça ne les oblige pas à devenir terroristes, grâce à Dieu, mais il faut entendre ce que les extrémistes nous disent de ceux qui ne le sont pas encore. Bon. Après, si vous voulez, sur toutes ces questions, c'est pour ça que moi je suis extrêmement prudent. Je pense que les jeunes, il faut les penser autrement. Et c'est pour ça que je dis on est adulte à 26-27 ans. Et donc, il faut accompagner. Il faut peut-être dire, il y a un revenu universel pour tous les jeunes qui travaillent un peu. On leur donne. Prenez un truc très simple, ce qu'ont fait les Belges. Ils ont décidé que jusqu'à 25 ans, tout jeune peut toucher 3000 euros déclarés zéro charge. Pourquoi ? Parce que du coup, votre nourrice, elle est déclarée. Parce que nous, on ne fera jamais réparer sa bagnole au black par un mec qui n'a pas de diplôme. Mais notre gamin, on le fait garder par une nana qui n'a absolument pas ce qu'il faut faire s'il s'étouffe. Et en plus, s'il s'étouffe, elle est responsable. Qui est quand même inimaginable. C'est-à-dire que ce qui est le plus précieux, c'est d'avoir mis le moins de protection. Alors que si effectivement, vous avez dit que tous les jeunes, vous le déclarez, la jeune fille, ou je dis le garçon, enfin c'est plutôt les jeunes filles, mais ça peut être des garçons qui gardent votre enfant, il est déclaré, il est couvert, par là, il n'y a pas de charge. Et ça veut dire que tout jeune se dit, je peux gagner 3000 euros, c'est charge. Résultat, l'essentiel des mecs qui vous servent une bière à Bruxelles, ce sont des étudiants, des jeunes qui travaillent déclarés. C'est-à-dire, il faut apprendre le travail. Nous, on a cru que le travail, ça venait quand on avait fini ses études. Mais les études se sont allongées. Donc je veux dire, il est clair qu'il faut apprendre le travail en parallèle aux études. On ne travaille pas après les études, on travaille en parallèle. Et c'est toute cette référence. C'est pour ça que moi je suis assez, je pense que l'idée d'un revenu pour les jeunes qui supprime les avantages fiscaux pour les parents, etc., à condition de le lier à un minimum de travail, c'est effectivement une réflexion tout à fait intéressante. Mais vous voyez, sur des choses comme ça, parce que le but c'est de tenir la main pour avancer. Bon. Et de la tenir de manière plus démocratique. Parce qu'enfin, cette société, c'est une société où les bobos trouvent un modèle pour continuer effectivement à vivre gaiement. Il faut dire les choses comme elles sont. Prenez le théâtre, c'est un excellent exemple. On parle tout le temps de la politique culturelle. Il y a 10% des gens qui vont au théâtre. Et on vous en parle comme si c'était une immense démocratisation. Mais il y a 90% des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans un théâtre, qui ne rentrent pas dans un musée. Donc quand est-ce qu'à un moment, on va arrêter de faire une société qui nous convienne à nous ? C'est quand même une question absolument centrale. Et la meilleure façon de modifier une société, c'est de tendre la main à la jeunesse. Et pas seulement en transformant l'école et tout, il y a des enjeux majeurs, mais aussi en ayant une réflexion sur comment on rentre dans l'âge adulte et comment une société, mais ça, je pense que Henri Tabouillot pourra vous en parler tout à fait ce soir, parce que les travaux de Tabouillot là-dessus sont extrêmement intéressants, il dit une chose tout à fait fondamentale, il dit pendant longtemps, la société, le groupe dominant, c'était les hommes mâles, j'allais dire les blancs, mais les hommes, on va dire. Et donc, les adultes, ce qu'on appelait les adultes, c'était eux. Les filles avaient un statut de minorité, comme les enfants et les personnes âgées. Et donc, le groupe minoritaire était le groupe dominant. Mais depuis que les femmes ont tenu en gros les mêmes droits que les hommes, même si le chemin n'est pas tout à fait terminé, le groupe majoritaire, ce sont les adultes. Et il y a deux groupes écrasés, c'est les vieux et les jeunes. Et il y a deux groupes pour lesquels on n'a pas au fond de pensée, c'est ces deux groupes-là. Alors les vieux, ben, l'idéal c'est d'acheter un vieux château et d'en faire une maison de retraite, on le met à les côtés de la ville et on va les voir pour Noël, si on est gentil on y va un peu plus souvent. Et les jeunes, on les éduque, on nous a éduqués. Mais moi, quand j'ai passé le bac, on était 25% d'une génération passée le bac. Donc, en gros, on était des, je veux dire, nos parents, l'un, c'est déjà de famille. Bon, on n'est plus du tout dans le même modèle. Et donc, la question aujourd'hui, vous savez, quand chez Bouygues, on avait travaillé sur comment on gère le temps libre. Il faut travailler sur une société qu'on ne connaît pas. Il faut construire la ville pour des modes de vie qu'on ne connaît pas. Il faut se dire que comment on vivra les rapports entre les générations dans 30 ans, je ne sais pas. Est-ce qu'on va continuer à mettre les vieux en bordure comme ça? Je ne suis pas convaincu. Est-ce qu'on va les reprendre dans nos maisons? Je pense que non. Est-ce qu'on va les avoir sur le même palier? C'est assez probable. Est-ce que les HLM acceptent que je dise ma vieille maman, je voudrais qu'elle soit dans la même tour que moi? Non. Est-ce que l'idée même d'avoir des liens familiaux existe? Non. Est-ce que la France demande la distance entre la mère et la fille, tous les gens, dans les sondages? L'Italie le fait tous les ans. On pourrait demander la distance mère-enfant. Il se trouve que dans la plupart des cas, excusez-moi, c'est plutôt les filles qui s'occupent de leur vieille maman. Mais en France, c'est une information qui ne nous intéresse pas. En Italie, ils la demandent tous les ans. Pourquoi? Parce qu'ils favorisent la proximité géographique, autant que faire se peut. Alors il se trouve qu'en Italie, le modèle est complètement différent, puisque 90% des hommes appellent leur maman tous les jours. Ici, nous, je ne suis pas sûr qu'on fasse tous le même type de lien social. Bon, mais c'est pour dire. Mais en même temps, on ne s'intéresse pas en France à la structure de la famille, qui est une structure recomposée, complexe et tout. Mais le problème, c'est comment après on organise les solidarités. Parce que si on voulait, disons en gros, une place, il y a des gens plus spécialistes que moi dans la salle, mais en gros, on va dire c'est 2000 euros pour être dans une maison de retraite. Or, c'est au-dessus de la moyenne des retraites des jeunes. Donc, effectivement, si on veut, au-delà du point de vue sentimental, au-delà du point de vue de la transmission culturelle, au-delà du point de vue de tous les savoir-faire sociaux qu'ont les retraités. Parce que la démocratie en France est gérée par les retraités. Les associations sont gérées par les retraités. C'est-à-dire que la retraite, c'est le cœur de l'organisation démocratique de nos sociétés. Parce qu'on entre à l'âge actif, comme tu as dit, on travaille tellement entre 30 et 55 ans qu'on n'a pas le temps de s'occuper des associations, etc. Bon. Donc c'est les retraités qui font tout le boulot démocratique. C'est une bonne nouvelle. Bon. Mais comment on se pose ces questions? Comment on évolue là-dessus? Moi, je crois qu'il faut surtout se dire qu'on ne sait pas, qu'il faut simplement se dire que le rapprocher les générations, c'est un enjeu majeur d'une société où les gens vieillissent, et que donc ça veut dire les remettre les uns à côté des autres. Ça veut dire, y compris parce qu'être vieux, c'est le plaisir de regarder par la fenêtre, c'est le plaisir, etc. Alors, il y a un modèle, peut-être je m'arrêterai là-dessus parce qu'il est une heure, moi que j'aime beaucoup, c'est de dire, au fond, les gens devraient acheter 100 mètres carrés virtuels à 18 ans. Et ils ont droit à 100 mètres carrés dans la ville. Et quand ils sont 18 ans, ils sont chez leurs parents, ça se rembourse par la valeur. C'est loué, en gros. Les 100 mètres carrés sont loués. Quand ils sont étudiants, ils prennent 20 mètres carrés pour eux, ils ont 80 mètres carrés de loyer. Quand ils sont une famille, ils ont 100 mètres carrés, ils n'ont pas de loyer, ils remboursent leur emprunt. Quand ils sont vieux, ils n'ont plus besoin de 40 mètres carrés, ils ont un loyer qui vient compléter les 40 mètres carrés virtuels. C'est-à-dire considérer qu'au fond, il y a des âges de la vie où nous, on est obsédés par la retraite. Mais la retraite, c'est qu'un revenu des personnes âgées. Il est clair quand on donne ces chiffres-là que si les gens meurent pas tous de faim, c'est bien parce qu'à côté, ils ont des revenus des loyers. Et que c'est bien évidemment les revenus notamment des loyers qui sont le complément. C'est pour ça que je me suis moqué de Piketty, parce que effectivement, le fait d'avoir 72 années de paix fait que le nombre de gens qui possèdent un revenu locatif complémentaire, mais ça n'a rien à voir avec un spéculateur qui est aux Bahamas. Quoi. Mettre ça dans la même catégorie du capital, pour moi, c'est une lecture marxiste un peu archaïque. Parce que ça n'a rien à voir en termes ni économiques. Et même si, effectivement, d'autant que le nombre de Français propriétaires continue à progresser, même s'il est un peu inférieur à 70%, et d'ailleurs, une des choses très intéressantes, c'est que les populations immigrées ont un taux de propriété à peine inférieur aux vieilles familles françaises, puisque c'est 55% des gens dont un des parents est né à l'étranger qui sont propriétaires, et c'est 62 ou 64% des gens, disons, nés en France depuis plusieurs générations. Ça veut dire que la question de l'accès sur la propriété dans ce pays est un enjeu central. Voilà. Mais sur ces choses-là, si vous voulez, moi, c'est ça que j'essaye d'éclairer. Et c'est vrai que soyez surtout dans le doute sur les modes de vie de demain. Est-ce que les régions du Sud seront aussi attractives dans 30 ans? Est-ce que la Bretagne aura gagné en attractivité? Vous voyez, tous ces processus, on ne peut pas les savoir tout de suite. Et donc, c'est ce qu'on se disait quand on travaillait avec Bouygues, c'est anticiper. Comment on construit des immeubles sans savoir comment les gens vont habiter? On sait qu'ils vont divorcer de plus en plus souvent. Alors en même temps, peut-être que nos enfants vont dire « Putain, ces parents qui ont changé trois fois de couple, moi je... Bon. » Donc une chose qu'on n'a pas prévue, c'est que quand on divorce souvent, on a beaucoup plus de vues à gérer quand on est vieux. On n'en a pas deux, on en a quatre ou six. Donc c'est extrêmement lourd, la gestion de la fin de parcours des personnes âgées, c'est beaucoup plus difficile. Mais bon, on n'est pas... Mais je ne sais pas comment on vivra demain. Donc faites une ville pour des gens dont vous ne savez pas comment ils allaient vivre. Vous savez, il y a 30 ans, on a commencé à dire, nous, attention, les séparations augmentent. Faites des logements en multipliant par deux. On nous a dit, mais pas du tout, il y a le mec qui va prendre un studio et la femme, elle garde l'appart. Évidemment que non. C'est une des causes de la crise du logement, c'est que les enfants ont deux chambres. Bon, ce qui est absolument naturel. On est nombreux ici à connaître cette situation. Mais donc, il faut écouter les chercheurs. Et moi, ce que je vous dis, c'est, je ne sais pas comment on vivra dans 20 ans. Prévoyez une ville et des bâtiments où on peut vivre dans des petits logements, dans des grands logements, où les vieilles dames se mettront à 10 avec une personnelle de service, ou peut-être pas, où effectivement on va vouloir rapatrier ces vieux à côté, mais pas tous les vieux parce qu'il y en a qui sont chiants. Donc bon, non mais attendez, les vieux... Bon. Donc comment on va penser ces choses-là? Et comment on va se dire que l'art de vivre ensemble est quand même le cœur de la question dont on devrait discuter? Alors que nous, on discute de trucs. Vous voyez, même le revenu universel, puisque je m'arrêterai là-dessus, vous avez posé la question, ce qui m'avait énervé. En plus, ils utilisaient beaucoup mes travaux pour la légitimer dans l'équipe d'Amont. Donc, ils m'aiment bien. Mon dernier livre, ils ont conseillé de le lire. Donc, je ne peux pas leur dire du mal. Mais j'ai jamais dit ça. Moi, j'ai proposé un revenu universel pour tous les jeunes qui soit lié à une certaine idée du travail. C'était pas un universel pour tout le monde. Je ne crois pas à ça. Et en plus, je crois que le travail, c'est échanger du temps que je donne pour les autres. Toi, tu es médecin, toi, tu es enseignant, toi, tu construis des routes, toi, tu fais... Je veux dire, c'est ça, le travail. On dirait que c'est une valeur uniquement abstraite. On s'échange des services, les uns avec les autres. Chacun met sa compétence. Si on fait du travail uniquement une qualité financière, on ne parle plus que d'emploi, on ne parle plus que de chômage, et on ne parle plus du fait que le travail, c'est faire un geste que j'échange avec l'autre qui fait un autre geste. C'est-à-dire, c'est ça qui fait que je suis un animal social. Merci.